BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à tous et c'est la rentrée pour De quoi je me mêle. Quel plaisir de vous retrouver. Et bien voilà, on vous l'avait dit juste avant les vacances, comme promis pour cette dernière semaine d'août, nous sommes présents. De quoi je me mêle, vous le savez, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis de vous retrouver. Bien sûr, l'actualité, elle ne s'est pas arrêtée durant cet été. On va en profiter justement pour faire un gros club de la presse IT pour revenir sur toutes les annonces plus ou moins récentes dans le domaine de la tech. Je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à ce qu'on raconte et nous écrire, notamment sur X. Encore une fois, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour le premier De quoi je me mêle de cette saison.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Et autant vous dire qu'on a quand même pas mal de choses à vous raconter dans le domaine de la tech. Et puis surtout, vous nous avez manqué beaucoup, beaucoup. Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony.
Salut François, salut tout le monde.
Et bien voilà, il est de retour Anthony.
Bah oui, bien sûr, vous nous avez manqué. Ben voilà. Vous en plateau et puis vous qui nous écoutez, qui nous regardez.
Exactement, on a la chance de se dire que finalement on fait un métier. Quand on revient, on est content de revenir.
Ouais, ça va. Ça, c'est...
Et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir ce petit
plaisir.
T'as raison.
On ne mesure pas toujours ce bonheur.
Exactement. Anthony, que vous retrouvez le matin sur BFM Business et la mi-journée aussi chez Estelle. Ouais. Hein, Estelle Denis, ça n'a pas bougé pour cette nouvelle saison. Gonzague d'Ambricourt est avec nous. Salut Gonzague.
Messieurs.
Voilà, Gonzague qui est blogueur, passionné de nouvelles technologies, youtubeur aussi, et puis qui est entrepreneur, avec évidemment une boîte spécialisée dans les réseaux. Et à tes côtés, c'est Nicolas Guyot. Salut Nico.
Salut François, bonjour tout le monde.
Le grand baroudeur de la tech. Il était déjà tout petit qu'il commentait les premiers iPhones.
Ah bah oui, on les a connus tous les deux. Hein.
Exactement.
Et, ouais, on les a découverts. Exactement.
Nicolas,
on a dit beaucoup de conneries aussi.
Je vais vous retrouver évidemment sur Clubic, tu en es le rédacteur en chef. On va commencer par les pixels. Et oui, parce que en catimini, enfin j'ai dit en catimini, mais c'est vrai que en dehors des grands moments de la tech, Google a annoncé ses Pixel 11.
Oui.
C'est toujours un événement parce que nous, journalistes, on aime beaucoup les pixels en général, parce que ce sont des téléphones déjà fabriqués, conçus par Google, donc avec un Android pur. On sait que côté photo, on sera vraiment dans le haut du panier. Il y a quand même pas mal aussi d'innovations liées à Android qui sont présentées en avant-première sur ces téléphones. Et donc, on attendait avec impatience, Anthony, ces nouveaux Pixel 11.
Oui, c'est ça, avec impatience. Et moi, je dois dire que c'est ma première petite déception de l'année. Et d'autant plus que, comme tu le disais...
Patatras.
Oui, bah oui. Et je le dis en tant que fan de Pixel, parce que moi, je l'utilise, je le dis régulièrement dans l'émission, mais c'est mon téléphone de la vie de tous les jours. Ça fait plusieurs années depuis le Pixel 4. Alors, je n'ai pas eu tous les pixels, mais en tout cas, assez régulièrement, parce qu'on en teste beaucoup des téléphones. Mais moi, ceux que j'utilise au quotidien, c'est vraiment les pixels. Donc, je connais assez bien cette gamme. Et quand je dis déception, c'est pas tant l'appareil lui-même qui est tout à fait qualitatif. Il y a un très bon appareil photo. Tout est bien, si tu veux. C'est un bon appareil. Mais pour moi, l'amélioration par rapport au 10 est tellement minimale, si tu veux, j'allais dire même microscopique, que du coup, on se dit, pourquoi avoir sorti des Pixel 11, quoi? Fallait rester au 10 à ce moment-là. Parce que, alors, on peut jouer au jeu des 7 erreurs, tu sais. Et franchement, je te mets un 10 et un 11 côte à côte.
C'est pas gagné.
À part un ingénieur de Google, si tu veux. J'exagère un tout petit peu, vous imaginez bien. Mais quand même, c'est-à-dire que si tu regardes un peu dans le détail, les différences, c'est quoi? C'est le même design, c'est le même poids à 5 grammes près. Tu as, alors si tu as une nouvelle puce quand même, tu as le Tensor G6. Alors ça, c'est vrai que c'est une amélioration. Avec notamment,
encore heureux, monsieur.
Oui, voilà, non, mais avec un TPU qui est plus puissant. Donc pour les fonctionnalités IA, c'est beaucoup mieux. Très bien. Écran un peu plus lumineux, ok. Photo, amélioration à la marge. Mais on est déjà tellement bien sur les photos des pixels que forcément, on ne peut pas non plus avoir des innovations extraordinaires. La recharge un peu mieux. La fonctionnalité dont on a beaucoup parlé est complètement gadget, c'est Highlight. C'est un truc, en fait, c'est une petite loupiote qui va s'allumer de couleurs différentes en fonction des gens qui t'appellent et qui va te montrer aussi que Gemini est en train de réfléchir. Bon, génial.
C'est-à-dire que tu vas pouvoir savoir quel type de notification tu reçois par la couleur en fait, de la LED qui est à l'envers du téléphone,
de l'appareil,
à l'extérieur du téléphone.
Pour moi, ça,
tu fais nos signes d'ailleurs depuis quelques temps.
Oui, oui, il y en a plusieurs qui font déjà ça. Alors moi, en tant que propriétaire de Nexus et de...
même sur les BlackBerry, Léa, qui est notre productrice, nous dit... qui avait ça, moi je m'en souviens pas.
Non mais le problème c'est qu'effectivement c'est là où Anthony a totalement raison, cette version 11 en fait, on se demande pourquoi elle est là quoi. Parce que à part augmenter de 100 balles à peu près tout, parce qu'ils augmentent de prix là aussi on n'en a pas parlé, mais il y a une petite inflation à cause de la RAM, mais il n'y a rien, même tu soulèves le capot, Le nouveau processeur, on a fait des tests. Sincèrement, y a pas, ça apporte pas énorme. Ouais. Alors oui, par contre, effectivement, le processeur, visiblement, il a bien été conçu pour faire tourner de l'IA en local. Là-dessus, il est assez balèze. Mais à part les fonctions Android 17, alors, par contre, oui, effectivement, c'est la vitrine Android 17. Hein,
je dirais même que à certains égards, il y a une régression. Parce que d'après ce que j'ai compris sur ce Pixel 11, il y a moins de mémoire vive que sur le Pixel 10.
Oui, c'est ça.
Je
ne
sais pas si vous avez suivi ce truc-là. Ouais. On est dans une surenchère du coût de la mémoire.
La shrinkflation technologique, c'est ça.
Google s'est dit, vous savez quoi, on va enlever quelques gigas de RAM. Personne ne va le voir. Hein, on va faire ça tranquillou bilou.
on l'avait prédit, hein, parce qu'on en a parlé assez souvent de ce Ramageddon ou l'apocalypse de la RAM un peu là. Et on avait dit, l'une des modalités pour ne pas avoir à faire exploser les prix, ce sera de nous proposer le même produit avec un petit peu moins de mémoire vive, en ne disant rien, ou en tout cas en partant du principe que 90% des gens ne vont pas forcément regarder cette caractéristique-là et ils vont payer le prix. Et c'est exactement ce qui se passe. Et moi, je pense que là, Google le fait, mais en fait, tout le monde va le faire. Enfin, beaucoup de fabricants.
Alors, ils compensent avec plus de capacité de stockage.
Ça, c'est vrai. Voilà. Non, il faut le dire aussi, il faut être honnête. Voilà,
parce que d'après ce que j'ai compris sur le 10, il y avait 16 gigas de RAM. Là, on passe à 12. Alors, c'est confortable, certes. Mais enlever ces 4 gigas, est-ce que dans certains usages assez intensifs du téléphone, tu ne vas pas commencer à avoir des ralentissements, tu vois ? C'est la question que tu peux te poser. S'il y a un an, ils avaient estimé qu'il fallait 16. Comment ils peuvent expliquer aujourd'hui que 12 suffit ?
Ouais, mais on passe d'un monde où la RAM coûtait que dalle, où tu pouvais en mettre, sincèrement, même nous on rigolait de temps en temps, t'avais des configs où t'avais beaucoup de RAM et elle n'était pas utilisée, à un monde où tout coûte cher. Donc en fait, il faut vraiment, le moindre giga, il est mesuré et je pense qu'ils ont été plutôt intelligents. S'ils sont descendus à 12, ils auraient pu descendre encore plus, ils auraient pu descendre à 10 ou à 8. Hein.
Mais là, ça aurait fait quand même du bruit.
Ça se voit.
Ça se voit, mais regarde Apple. Apple qui a toujours été chiche sur la mémoire vive, donc c'est compliqué. Et par contre, je trouve que c'est bien, c'est qu'ils ont augmenté la capacité de stockage.
Ouais, on passe à 256 Go.
Voilà. Les capteurs photo, pareil, c'est pas la folie non plus. On est toujours sur à peu près les mêmes capteurs. Alors par contre, le savoir-faire logiciel, c'est magistral. Là, on est sur une vitrine technologique. En fait, si vous avez un Pixel 10, ça n'a rien passé au 11. Là-dessus, on est clair. Par contre, si vous avez un vieux smartphone Android ou un vieil iPhone et que quand vous allez voir les nouveaux tarifs du mois de septembre, peut-être vous allez vous dire, je vais peut-être essayer un Pixel. Et voilà,
il faut être juste dans notre appréciation, c'est-à-dire que le reproche qu'on fait là, on le fait régulièrement à Apple. Quand on dit, le nouvel iPhone, par rapport à la version de l'année d'avant, il n'y a pas grand-chose qui s'améliore et ils nous vendent un nouveau modèle tous les ans. Donc quand c'est des fabricants comme Google qui le font, il faut aussi le dire. Moi, c'est vrai que jusqu'ici, j'avais trouvé qu'ils étaient assez disruptifs, même si c'est un mot que j'aime pas trop, d'une année sur l'autre. Là, c'est la première fois que, tu vois, je reste un peu sur ma faim. Donc dommage. Et on se demande, et c'est la question qu'on se pose aussi souvent, mais c'est à quoi ça sert ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un cycle de smartphone tous les ans ? Est-ce que juste tu peux pas sortir un téléphone tous les deux ans avec des vraies nouveautés quand tu fais ton annonce ? Parce que là, pour le coup, il y a vraiment pas grand-chose.
Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions dont on n'aura pas accès en France, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'IA.
Ah oui,
et donc il y a beaucoup de fonctions qu'on ne pourra pas voir en France pour l'instant à cause de l'Union Européenne et la réglementation. Mais par contre, il y a deux, trois trucs pas mal. Il y a Rambler notamment qui est une dictée vocale. En fait, au lieu de saisir avec le clavier vos messages, vous parlez à votre téléphone. Bon, ça, vous allez me dire, tous les téléphones le font. Sauf qu'en fait, il corrige à la volée. Il vous envoie des textes nickel. Sincèrement, c'est assez bluffant. C'est vraiment bluffant. Il y a le téléprompteur.
Tu t'en sers pour quoi ? Pour envoyer des SMS, des mails ?
C'est pas ça.
C'est ça. Ça enlève les hésitations.
Ouais. Ah oui.
Tu dis j'aimerais manger une. Donc ça va reprendre ça. Alors que si tu dis dans Siri j'aimerais manger une. Non, un.
Ah,
burger,
merde. Zut.
Ça va écrire ça.
Il a écrit.
Envoyez patron.
Effectivement, pas une innovation majeure non plus. Et les innovations principales en IA, elles sont dispo que dans 7 pays et pas nous.
Et alors, c'est quoi les innovations qu'on n'aura pas Il y a des trucs bien ou pas?
C'est vraiment l'essentiel des sujets de, tu sais, de prédiction, d'IA embarqués, comme avec Apple. Hein.
Voilà, comme par exemple, tu échanges avec un ami en disant j'aimerais bien aller à la pizzeria, machin, ce soir, etc. Aux États-Unis, il va pouvoir te proposer
de réserver directement
des places directement.
Envoyer une invite à ton pote.
Voilà, voilà, en mode agent IA, quoi. Voilà.
La partie assistant vraiment qui nous manque.
Là, cela dit, nous, comme on n'a pas d'amis pour les invités à manger des pizzas,
il n'y a pas de pizzeria en France.
Pas de pizza en France,
ouais, ça sert
de toute façon.
Non mais voilà, après il y a téléprompteur qui est pas mal. Il y a d'autres trucs que j'ai bien aimé aussi, téléprompteur, vous pouvez vous filmer.
Téléprompteur, nous voilà. Ça nous parle.
Ça nous aide aussi.
Ouais. Bah, vous vous filmez, c'est pour les influenceurs et pour les créateurs de contenu. Vous vous filmez et ben vous avez une petite bande en bas où vous pouvez lire le contenu que vous avez prêt, vous avez écrit avant.
Donc, en surimpression.
Voilà, en surimpression directement d'accord. avec le téléphone. Et il y a les styles photographiques. On en a pas parlé, mais ça c'est un peu inspiré d'Apple aussi qui avait lancé la mode. C'est en fait vous définissez un style photo graphique pour votre téléphone. Alors c'est pas un filtre, c'est appliqué vraiment en amont de la photo et ça donne des photos
un peu personnalisées.
Ouais, personnalisées avec le style que vous voulez.
Tu peux un peu augmenter le contraste.
Voilà.
Ouais. OK. Bon
voilà.
Les tarifs parce que évidemment, on va rigoler un peu.
1200 euros, c'est ça?
Alors, le premier Pixel 11 est à 999.
1000 euros.
Ensuite, tu as le Pro qui est à 1200.
1200, voilà. 1400.
C'est 1400.
1400 et après 2000 pour le pliant.
Voilà.
Le pliant qui, pareil, hein, c'est même que l'année dernière, un peu plus fin.
Oui, n'évolue pas énormément et qui va avoir du mal, à mon avis, face à la concurrence. On en parlera tout à l'heure parce que là, on voit qu'on arrive avec un nouveau form factor, que ce soit chez Apple, qui devrait annoncer son pliant, mais aussi chez Samsung. J'ai cru comprendre que le nouveau Samsung Fold qui vient de sortir cartonne, en fait. Ouais. Le format.
Le form factor, vraiment, c'est
les gens, dingue. Ouais,
ça va changer beaucoup de choses. Hein,
ouais, c'est assez intéressant.
Mais c'est marrant parce qu'on en parlait, ça, justement, de ce format où on est premier à en avoir utilisé. On se disait, mais c'est bizarre, hein, ces bandes noires, là, quand on regarde une vidéo en haut en bas. Ben là, en fait, ils ont à peu près réglé le problème.
Bon, ben voilà pour ce Pixel 11. On enchaîne avec les lunettes Meta. On en avait parlé, je pense, dans cette émission, il y a quelques mois de cela. On avait détecté que Meta travaillait en fait sur un système de reconnaissance faciale dans les lunettes. Visiblement, Tony, ça avance.
Oui, ça avance. Alors, on en avait parlé parce qu'il y avait eu des fuites dans la presse à l'époque. C'était le New York Times qui avait fait une enquête et qui avait sorti des mémos, des notes internes chez Meta qui expliquaient de manière très, très claire que la prochaine brique technologique qu'ils allaient installer dans leurs lunettes, donc les lunettes IA, les Meta Ray-Ban, etc., eh bien, ce serait une brique de reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les caméras qui sont intégrées dans les lunettes, on leur ajouterait un petit algorithme qui permettrait d'identifier potentiellement n'importe qui. Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous scannez la foule du regard et vous allez pouvoir savoir que voilà, j'ai croisé François. Bon, toi, on te reconnaît dans la rue. Mais les gens, on va pouvoir les reconnaître grâce à juste à leur visage. Et on peut imaginer ensuite avoir leur profil sur les réseaux sociaux, t'as directement l'Instagram de la personne. Alors, et donc là, alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que ça semble se confirmer, Meta a déposé un brevet pour une caméra intelligente qui permettrait d'identifier des personnes et de les taguer sur des vidéos. On n'a pas énormément plus d'informations, mais en tout cas, ça semble confirmer que la prochaine phase pour ces lunettes connectées, ce sera l'intégration de la reconnaissance.
Ouais, un peu plus que ça. En fait, il y a des chercheurs qui ont trouvé les composants logiciels dans les applications de Meta AI, des références à ce système. Donc en fait, c'est vrai.
Déjà implémenté, mais pas mis en route.
Exactement.
En fait.
C'est name tag.
L'idée, c'est qu'apparemment, Meta profite un peu du bordel qui se passe ambiant aux États-Unis pour faire passer des trucs un peu zoom-zoom de ce genre en disant non, mais c'est que pour faire une expérimentation. Mais c'est quand même dans l'appli qui est distribuée à des millions d'utilisateurs.
Mais moi, c'est ça que je comprends pas, parce que tu as raison, tu dis ils essayent de le faire un peu en douce et tout, mais en fait, je comprends pas leur état d'esprit. À chaque fois que j'en ai discuté avec des gens de cette fonctionnalité-là, alors peut-être qu'après on a des biais de confirmation parce qu'on fréquente des gens qui pensent un peu comme nous et tout, mais à chaque fois on m'a fait la réflexion, mais c'est horrible, enfin, personne n'a envie d'avoir ça. Je ne sais pas si vous connaissez, vous identifiez des gens autour de vous qui auraient envie d'avoir des lunettes qui leur permettent de savoir qui se trouve autour d'eux. Et donc je me dis, Meta, bon, ils ne sont pas débiles, hein, évidemment, ils doivent faire des benchmarks, des études de marché, des trucs. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que vraiment cette fonctionnalité elle n'est pas plus répulsive qu'attractive pour le consommateur. Pour moi, une fonctionnalité reconnaissance faciale, enfin, c'est le repoussoir ultime dans le genre de truc qui fait vraiment flipper, si tu veux. Et je me dis, il y a peut-être un décalage entre les ingénieurs de la Silicon Valley, tu sais, les, ce qu'on dit, on appelle les technobros un peu, qui sont vraiment dans leur, dans leur monde un peu. Ouais. Oh, génial, on va pouvoir se reconnaître dans la rue et tout. Et puis, je vais pouvoir t'ajouter sur les réseaux sociaux.
Oh, Mike, regarde, on est en train de tester, ça marche, c'est génial.
Eh, regarde, je t'invite à manger une pizza avec mon agent IA grâce aux lunettes et tout. Enfin, tu vois, de peu connecter. Tout ça.
On revient encore aux pizzas.
Bah voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et puis le grand public, où 90% des gens vont dire, mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que n'importe qui dans la rue va pouvoir m'identifier. Donc je suis dans le métro, par exemple, je pense une jeune femme, par exemple, et on va pouvoir l'identifier en deux secondes et pouvoir ensuite ajouter son Insta. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois, personne veut d'un monde comme ça. Et ouais, effectivement, ils ont essayé de le faire en douce. Et l'autre truc qui était dans les notes internes aussi révélées par le New York Times, c'était qu'ils le disaient de manière assez claire, hein, ils voulaient aussi mettre en avant les fonctionnalités médicales pour faire passer la pilule en disant, bah si, pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, c'est génial parce que tu vas pouvoir identifier les personnes autour de toi, les personnes que tu connais, etc. Donc la reconnaissance faciale, c'est intéressant. Mais une fois que tu sors du médical et que tu arrives dans le grand public, bah, c'est un peu plus inquiétant, quoi.
Après, je trouve ça hyper puissant.
Ah oui,
c'est vraiment un truc hyper puissant. Est-ce que nous, finalement, notre génération qui est assez réticente sur ces trucs-là, n'est pas un peu en décalage? Est-ce que finalement, tu vois, peut-être que la prochaine génération dira, ok, cool, savoir que je peux ajouter Gonzague parce que je l'ai croisé quelque part, j'ai vu qu'il avait, bah, il faisait des vidéos, je sais pas, peut-être on peut imaginer plein de trucs et tout, tu vois.
Moi, je pense que leur marché, c'est pas forcément le grand public, c'est eux. En fait, c'est ça qu'on oublie, c'est que le marché, c'est Meta. Ouais. Meta, Facebook, en douce pendant des années, et qu'ils le font encore, bien sûr, ils ont créé ce carnet d'adresses de l'ombre qui permettait pour eux de savoir à qui tu étais connecté, qui étaient tes amis, parce que tu déversais le carnet d'adresses de ton téléphone dans leur app. Et même si tu n'ajoutais pas quelqu'un sur Facebook, bah, ils savaient que tu étais connecté à cette personne, tu avais son numéro. Et ils ont construit avec ça une gigantesque base de données. Il faut se rappeler aussi qu'ils ont quand même acheté une société de VPN pour observer le trafic et les applications qui étaient très utilisées. Donc, leur intérêt, c'est plutôt souvent le leur, hein, que le nôtre.
Ouais, tu penses qu'en fait, c'est lié à leur modèle économique de base, qui est de vendre de la pub. Et donc, en gros, ils veulent en savoir toujours plus sur toi. Et là, le fait de pouvoir savoir qui tu croises, à quel moment et à quel endroit, finalement, ça va être une base de données qui est
Meta, c'est vrai aussi. Meta, c'est une des plus grosses bases de données sur les gens au monde.
T'as pas besoin d'avoir de caméra pour ça, en fait. En fait, c'est ça que moi, je comprends pas. Parce qu'en fait, la caméra, t'as un côté surveillance. T'as un côté j'ai vu. Alors, si tu fais du géofencing, si tu fais tu peux faire la détection, hein, par géolocalisation. Hein. Tu passes à côté d'un ami, les deux téléphones, hop, ça match. Tu sais que la personne est là. Je vois pas l'intérêt, effectivement, de filmer pour filmer, quoi. Sachant que c'est un truc, c'est quand même un gros frein, quoi. Il y a des enjeux en plus derrière, bon, en termes de vie privée, mais aussi après les points de vue techniques. Les lunettes, elles peuvent pas filmer 24/24. Donc voilà. Donc en fait, un moment, je sais pas, à part servir en Chine ou...
La Chine, moi, je me souviens, on fait une chronique, il y a 10 ans ça, où la police testait des lunettes avec la reconnaissance faciale intégrée. Donc, ouais, peut-être...
Mais je crois que toutes les caméras publiques en Chine...
Les caméras, oui.
Ah, totalement, oui.
Enfin, ont un logiciel de reconnaissance
faciale. Ouais, ouais, absolument.
C'est clair, on sait que t'es passé à tel endroit, on sait qui tu es, d'où tu viens, et ce que tu vas faire, plus ou moins.
Et ça arrive dans pas si longtemps chez nous, hein, parce que les Jeux Olympiques, etc.
Oui, il y a eu des dérogations.
Oui, des dérogations qui sont prolongées.
Mais c'est pas de la reconnaissance faciale, hein.
Non,
c'est de la détection algorithmique. Voilà, c'est pas
détection de
pas pareil. C'est ouais.
Non, alors je me demande pendant les JO s'il y avait pas certaines caméras qui, justement, en termes de sécurité, pour essayer de combattre le terrorisme, il n'y avait pas de la reconnaissance faciale.
Je crois pas. Moi, de ce que j'avais compris, mais c'était, comme le disait Gonzague, c'était la détection de certains comportements anormaux d'une foule ou alors un bagage abandonné ou ce genre de choses. Ça, les caméras sont capables de le faire. Et effectivement, les expérimentations se sont multipliées, mais la barrière avec la reconnaissance faciale, qui est complètement interdite dans l'espace public en France.
Peut-être qu'ils avaient activé ça et qu'ils nous l'ont pas dit. Hein. Peut-être qu'à certains moments.
Ça, après.
Spécifique, parce que c'est au point depuis très nombreuses années.
Après, on peut avoir le débat. Moi, ça ne me choque pas plus que ça.
Non, moi non plus, ça me choque pas.
Après, ça dépend du cadre, mais tu vois, la reconnaissance faciale pour détecter des personnes qui sont recherchées par la police, par exemple, ce serait pas complètement délirant de se dire que quand tu as un événement sportif, tu puisses détecter des gens qui sont potentiellement dangereux. Bon, après, ça, c'est un autre débat.
Oui, c'est un autre débat.
Ce qui est sûr, c'est que la CNIL, quand elle va entendre parler de ses lunettes,
alors là,
si ça doit arriver en France, je pense que les mecs vont faire une crise cardiaque. Jamais ça sort en France.
Mais il y a déjà des des États aux États-Unis où en fait où les gars, en fait, ils commencent à porter plainte en fait hein, là-dessus, hein, sur le port des lunettes dans l'espace public, notamment, bah oui. sans l'aide. Alors maintenant, il y a la l'aide obligatoire. D'ailleurs, je crois que même Meta a fait le nécessaire pour que il y a pas mal de bidouilleurs qui
oui, tu pouvais hacker le truc, ouais, et péter la.
Mais bon. Maintenant, dès que tu essayes d'y toucher un petit peu, ça se.
Ouais, ça, en fait, ça désactive la caméra.
Et après, moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, tout ça, ça va vers des lunettes plus compliquées à gérer. Moi, ce que j'ai adoré sur ces Ray-Ban, ouais, sur les premières Meta, en fait, c'est la simplicité. La simplicité de ces lunettes qui se mettent à jour fréquemment, on a plein de nouvelles fonctions qui arrivent, etc. Mais c'est simple, j'ai juste des écouteurs, j'ai une caméra, je peux prendre des photos, t'es en vacances, t'as pas besoin de sortir ton téléphone, prends des photos, tu veux filmer un petit truc, filme un petit truc. Point barre. Là, ils commencent à nous rajouter des couches, et là, sincèrement, est-ce que t'as envie d'avoir des lunettes usine à gaz sur le nez, quoi? Ce qui était génial de ces lunettes, c'était la simplicité.
Ouais, mais tu sais, c'est un peu le sens de toutes ces boîtes-là qui veulent toujours ajouter de l'innovation, toujours essayer de. Et puis il y a le business, comme tu le disais, derrière
ça. Le business, t'as le côté portable, enfin wearable devices qui embarque. C'est ce que fait Apple avec le Vision Pro. C'est pas le même produit, tout ça, ça converge.
Et puis il faut pas que ce soit repoussoir, quoi, en fait, c'est ça.
Et puis je vous rappelle que toutes ces données qu'on capte. Qui vous dit que Meta ne s'en sert pas aussi pour améliorer ses LLM, toute son IA.
Data filmée par les lunettes.
Bien sûr, je vous rappelle que l'ère de la robotique va bientôt arriver. Imaginez un peu la valeur qu'ont toutes ces données quand on marche, quand on manipule des choses, quand on photographie, etc.
Je rappelle qu'aux États-Unis, aujourd'hui, tu as quand même des boîtes d'IA qui te proposent de venir faire le ménage chez toi. Et la femme de ménage avec des lunettes connectées ou avec une petite caméra.
Et tu dois bien montrer ce que tu fais.
Voilà, pour bien filmer ce que tu fais. Et en fait, du coup, pour entraîner les robots ensuite qui serviront à faire le ménage. Parce que la valeur de ces datas a plus de valeur que le prix horaire de la femme de ménage.
C'est bizarre parce que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me dérange ça. Parce que je me dis, finalement, ces gens-là sont en train d'enterrer leur métier. Finalement,
oui, tu contribues à ta propre disparition.
Tu contribues à ta propre disparition.
Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup le choix, en fait. Hein,
certes, je suis d'accord, mais malgré tout, je trouve qu'il y a un côté cynique dans ce truc-là qui est effrayant.
Alors, mais il va falloir des millions d'heures d'enregistrement avant d'arriver à un truc à peu près potable hein, aussi. Donc,
tu mets 10 000 personnes qui font ça, tes millions d'heures, vite les avoir.
Mais ils disent que justement, il y aura une petite dizaine d'années hein, quand même avant d'arriver à un résultat potable.
Pour les robots,
pour les robots.
Mais tu sais que pour le fait de scier la branche sur laquelle on est assis, si on peut dire, c'est vrai dans tous les métiers, et y compris les journalistes, tu as maintenant des applis d'IA qui te proposent, toi en tant que journaliste, de relire plein d'articles générés par l'intelligence artificielle et de dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré, est-ce que le titre ça va, du point de vue d'un lecteur humain, est-ce que tu mettrais ça plutôt avant ça, et t'es payé à l'heure, et c'est assez bien payé hein. J'avais regardé, je sais plus le nom du site, et il proposait en fait pour tous les métiers à partir du moment où tu as une expertise particulière et bien
c'est
d'aider à entraîner les modèles
tu fais l'apprentissage sur
tout à fait.
Waouh. Allez, on enchaîne avec cette polémique qui dure concernant les gamers et les possesseurs de PS5 avec le PS Blackout qui a fait couler beaucoup d'encre cet été, Anthony.
Oui, c'est ça. Alors, on rappelle hein, le contexte général, mais enfin, je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sont un peu au courant que Sony a balancé un énorme pavé dans la mare en disant « on arrête ». Les jeux physiques, on passe au tout dématérialisé, donc il y a évidemment une énorme levée de bouclier de la part des joueurs.
Tout ça rapidement, hein, dès 2027, je crois que ça y est, c'est fini, il n'y a plus de galettes. Hein.
1er janvier 2028.
1er janvier 2028. Mais ils vont commencer déjà
avec
à réduire.
GTA est annoncé sans support physique, etc.
Donc GTA n'existera pas en support physique.
Ouais. Ça fait partie du chantage qu'opère le mec qui publie des leaks du jeu. En disant, moi, j'ai envie qu'on puisse l'avoir en physique.
Eh oui.
Ce qui est peut-être plus efficace, alors parce que du coup, il y a eu des appels au boycott, dont le fameux PS Blackout, donc qui consiste à ne plus se connecter en ligne et
à quitter le PSN,
quitter le PSN. Ouais. Bon, ça a fait flop hein, pour l'instant. En tout cas, ça fonctionne. Voilà, oui. Enfin, c'était évident que ça allait pas fonctionner. Enfin, pour moi, c'était une évidence.
Plus connecté, tu joues plus. Hein, donc,
C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus mécontents, c'est ceux qui jouent sans doute le plus. Donc, ça doit être dans la tête un truc.
Mais surtout, en fait, le truc. Alors moi, c'est pareil. Je suis un peu désolé du fait qu'on arrête parce que je suis un collectionneur de boîtes physiques, j'adore, etc. Je prends acte du fait que le dématérialisé, maintenant, c'est le gros du marché et que d'un point de vue économique, ça pas très, tellement de, enfin, ça a du sens pour Sony en tout cas d'aller vers le tout dématérialisé. En revanche, ce qu'on peut vraiment leur reprocher, c'est leur sens du timing, puisque en plein milieu de ce blackout PlayStation et de cette bronca des joueurs, ils se sont fendus d'un mail que vous avez peut-être reçu, hein, qu'ont reçu tous les joueurs de Play, qui rappelle, mais vraiment noir sur blanc et de manière assez peu ambiguë, que, en gros, quand vous avez des jeux dématérialisés, vous ne possédez rien. Alors c'est à vous. Enfin, je sais pas. Tu veux peut-être en parler, Nico.
Oui, non, mais ils ont reçu. Comme quoi, ils ont rappelé qu'en fait, on avait des licences pour jouer à des jeux et que les jeux, en fait, on les possédait pas. Quoi. Vous téléchargez un jeu sur le PlayStation Network. Ce jeu, vous avez acheté une licence d'utilisation.
Oui, c'est-à-dire qu'on achète la jouissance du jeu.
Voilà.
C'est ça.
Donc.
Mais vous possédez pas.
Alors, mais c'est quoi la différence entre le fait de le posséder et d'avoir la jouissance du jeu finalement?
Ah bah non, si t'as la boîte physique, tu la possèdes, tu peux la revendre, tu peux revendre ton
jeu. Ah oui,
vois,
d'accord.
Avec le CD, ça. Tu vois, c'est ça. Ouais, en fait, le même prêter, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu l'achètes, après, voilà, il a une valeur à la revente. Là, en gros, tu as une licence d'utilisation qui
n'est pas cessible.
Ah bah non, et puis surtout qui peut sauter pour tout et n'importe quoi. Ils écrivent, vous ne possédez pas le produit numérique. Quand on achète ou télécharge un jeu, on peut l'utiliser, mais on n'en est pas propriétaire. On ne peut ni le revendre, ni le prêter, ni le léguer. Et ils expliquent également que, bah, par exemple, ton compte peut sauter pour n'importe quelle raison, et à ce moment-là, tu perds tous tes jeux. Que s'il y a un bug de leur système à eux, pour une raison ou pour une autre, bah, en fait, tu perds tout. Ils ont, alors, s'ils font une énorme erreur, ils peuvent te rembourser, mais au maximum, je crois, c'est une centaine d'euros. Donc, toi, tu as monté une bibliothèque de jeux,
tu as payé 2000 balles. Tu as 10 000 euros de jeux, tu vas avoir 100 balles.
Et tu récupères 100 euros. Et en fait, à la limite, j'allais dire. On le sait, si tu veux. On sait, on est au courant globalement de ce truc-là. Personne ne lit les conditions générales d'utilisation, mais on est au courant. Simplement,
c'est le
sens du timing. Quoi.
Ouais,
juste,
incroyable.
Tu te dis, est-ce que les équipes de communication discutent avec les équipes juridiques pour, en plein milieu, alors que vraiment tout le monde est vraiment à vif
oui,
sur cette question,
le monde est à cran.
Envoyer le mail en disant, au fait, les gars, les jeux là. Vous les possédez pas. Non, mais c'est terrible, c'est vraiment.
Non, mais t'as l'impression d'avoir un pion, tu sais, qui a une classe dissipée qui arrive et qui tape du poing sur la table en disant c'est moi le boss. Bon, ok, d'accord, on a compris, mais le problème, voilà.
Et là, il commence à se prendre des bouts de craie, le gars.
Je pense que, ça continue comme ça, ouais. Mais effectivement, en fait, ils veulent aussi se dédouaner s'il y a des problèmes, même avec leur partenaire. Hein. Il suffit qu'un éditeur coupe un serveur et que le jeu soit plus accessible en réseau, par exemple.
Ouais.
Mais avant, ils pouvaient se prendre des procès et des trucs comme ça. Là, le but, c'est de dire que globalement, voilà, ça, c'est propre. Vous avez le droit juste d'utiliser. On est dans notre. C'est des CGU, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de choses hein, comme ça, hein, pareil sur votre voiture. Hein.
Bah, en fait, on est quand même dans un monde de l'abonnement. Spotify, Netflix, vous payez un abonnement et quand il s'arrête. Tout le contenu auquel vous aviez accès s'arrête.
Ouais, sauf que c'est pas pareil là.
Ah mais je suis d'accord avec toi.
Tu t'achètes un GTA, ça va te coûter entre 80 et 100 balles.
Ah non mais on est d'accord. Et surtout il est marqué.
Et là tu t'abonnes
acheté.
Pas. Voilà.
Il est marqué acheté sur le site donc c'est
acheté. Vrai
que...
C'est ça tu vois. Autant moi je peux comprendre. Tu t'abonnes, je sais pas moi, un service d'abonnement de jeu sur Xbox ou sur PlayStation. Tu t'arrêtes de payer, ça fait partie du jeu.
Bien sûr, là, tu payes un prix unitaire pour un jeu versus... Et on est tous d'accord. Et en fait, ce problème existe depuis longtemps, comme vous l'avez dit, puisque sur des plateformes comme l'App Store, etc., parfois, tu peux avoir acheté une app, ne plus pouvoir la retélécharger, ou d'ailleurs, même si elle est juste plus mise à jour, tu ne pourras pas en bénéficier sur ton nouvel appareil. Si on te ferme ton compte, tu perds tout.
Ah, t'avais eu même à l'époque, je me souviens, des MP3 de l'iPod où il y avait eu des histoires de gens qui voulaient léguer leur discothèque MP3 et qui n'avaient pas pu le faire, par exemple. En fait, dès que t'achètes un produit numérique, en réalité, c'est ça. En fait, il faudrait même pas utiliser le mot acheter parce que là, on sort de la définition. Tu n'es plus
propriétaire,
en fait.
Et si on y pense en France, on se fait vraiment triplement avoir parce qu'on paye quand même le droit à la copie privée dont on ne peut pas du tout bénéficier.
C'est clair. Ouais. Bon ben voilà pour cette petite anecdote PlayStation et puis je vous rappelle qu'il y a la PS6 qui devrait arriver, alors je sais pas quand mais
retardé,
ça va pas arranger tout ça à mon avis.
Ouais, en fait, ouais, normalement, devait arriver vers 2028-2029, mais vu le prix de la mémoire vive, là, en fait, les gars, on fait tous des simulations, on se retrouve avec des consoles de salon à 1000 balles, minimum.
Ouais, mais ça veut dire que la PS5 aura 10 ans, en fait. Elle aura une durée de vie de 10 ans, ce qui est quand même incroyable. Hein.
Inédit, ouais.
Ouais, après
c'est un cycle de vie très long.
Ouais, normalement,
c'est des cycles de vie 7 ans. Ouais,
c'est 7 ans, je crois.
Alors après, ils sortent des PlayStation. La PlayStation 5 Pro. Il y a des nouvelles techno comme le DLSS. Qui permettent d'avoir plus d'images par seconde ou une meilleure définition sans faire trop travailler le processeur graphique. Il y a le cloud qui va pouvoir aider. En fait, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, si cette crise de la mémoire vive continue,
ils ont de quoi encore remettre en...
Ils peuvent mettre plus ou créer peut-être une console avec peut-être moins de mémoire vive. Ils vont faire peut-être comme Google.
Ils peuvent appeler
voilà.
Google. Hein.
Voilà, et, mais avec des composants qui vont permettre d'avoir des performances grâce à l'IA, notamment.
Ok. Voilà. On va revenir dans un instant, les amis. On a encore plein de choses à vous raconter. Vous savez qu'il y a un robot Aspi en ce moment qui cartonne aux États-Unis, qui paraît-il est au top du top. On va en parler dans un instant. Et puis, bien sûr, les rumeurs concernant les nouveautés Apple qui vont pas tarder à arriver. Et on parlera aussi robots avec Unitri qui a fait sensation quand même lors de ces Jeux Olympiques des robots. Anthony en parlait et on en a aussi parlé dans Tech & Co. A tout de suite pour la deuxième partie de ce De quoi je mêle. Un grand merci d'être là.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.